Les routiers sont toujours aussi sympas.
Le replay. Bonsoir à tous.
Toujours aussi sympa.
21h, c'est le début de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Une émission ouverte à tous, destinée à mieux faire connaître le métier de conducteur routier. Sebamax se repose en ce début de semaine après un week-end intense passé au 24 heures camion Le Mans. Je sais que vous êtes nombreux à avoir passé une petite tête sur notre stand et avoir rencontré Sébastien Ponchelet ce week-end. Donc il se repose ce soir et demain soir. J'ai le plaisir de le remplacer. Ce lundi, on va parler de dépannage en faisant le bilan du Salon international du dépannage qui a eu lieu à Bordeaux la semaine dernière. On rentrera dans le vif du sujet dans quelques minutes. J'ai aussi deux copilotes avec moi ce soir. J'ai nommé Quentin Lachaise qui couvre pour vous le sud-ouest de la France. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Florence, bonsoir à Lisa et bonsoir à tous.
Et oui, parce qu'on a aussi une autre voix féminine, Lisa Évrard, qui surveille les axes du sud-est, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. Bonsoir Lisa.
Bonsoir Florence et bonsoir Quentin, comment ça va?
Eh bien, ça va bien, les filles en force ce soir, ça fait plaisir.
Et oui, toujours.
Je peux détacher mes cheveux si vous voulez, hein, pour,
oui,
en termes de sororité,
oui,
je peux.
Exactement, Quentin a les cheveux longs, on précise, donc oui, n'hésitez pas Quentin.
Je vous enverrai une petite photo.
Allez, donc avant de présenter plus en détail le sujet de ce soir, place à la météo. Et ce soir, dans votre émission, on parle donc du Salon international du dépannage et du remorquage. Il s'est tenu à Bordeaux du 24 au 26 septembre dernier. Il est organisé depuis 25 ans par l'ADAF, l'Association des dépanneurs automobiles de France, pour regrouper tous les professionnels du secteur. On fera le bilan de cette 26e édition avec notre premier invité, qui ne sera autre que le président de l'ADAF lui-même, Serge Hilton-Fink. C'est l'occasion aussi chaque année d'évoquer l'avenir du métier et les dernières innovations. On parlera de transition énergétique avec l'arrivée de dépanneuses électriques. Et bien sûr, on fera un point sur la sécurité des intervenants sur l'autoroute, par exemple. Notre deuxième invité s'appelle Maxence Rière. Il a d'ailleurs gagné le trophée coup de cœur pour l'innovation qu'il développe avec sa société Grand Éclat, des balises lumineuses pour protéger les véhicules d'intervention et le personnel qui intervient à pied. En deuxième heure, Kevin Vio, directeur de l'entreprise Bess et Opi, nous parlera de la dépanneuse électrique qu'il a carrossée. Et Frédéric Coll de Stavi Aquitaine nous expliquera pourquoi il a choisi d'utiliser cette première dépanneuse électrique justement. Un métier où il faut aussi concilier vie privée et vie professionnelle en pensant au risque bien sûr. Est-ce que c'est un métier que vous avez exercé ou qui vous intéresserait? Venez également raconter vos expériences avec des dépanneurs. Vous pouvez m'envoyer un message quand vous êtes à l'arrêt en allant sur notre site internet radio177.fr et en cliquant sur la bulle bleue Messenger. Vous avez le programme, bienvenue à tous. On va écouter un peu de musique pour démarrer. On écoute The Weeknd. Ce soir, on parle de dépannage à l'occasion du Salon international du dépannage et du remorquage qui a eu lieu la semaine dernière. N'oubliez pas également de voter pour votre sondage du soir. On vous pose la question, aimeriez-vous devenir dépanneur poids lourd? Pour voter, c'est simple, vous allez sur notre page internet radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt et vous cliquez sur le bandeau sondage du soir. Je donnerai le résultat en fin d'émission. Je suis en ligne, ça y est, avec notre premier invité. Bonsoir Serge Hilton-Fink.
Bonsoir à vous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes le président de l'Association des dépanneurs automobiles de France, l'ADAF.
Tout à fait, oui.
Vous organisez depuis 25 ans donc, le Salon international du dépannage. Quand vous avez créé le premier salon, ça répondait à un véritable besoin. Il me semble qu'il y a une histoire d'entrecôte dans un restaurant, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. C'est parti tout simplement d'un très très bon repas au Carnegie Hall à Corba, où deux copains, mes collègues, ont décidé sur un coup de tête d'organiser un salon du dépannage qui n'existait pas auparavant. Et puis c'est parti de là-haut, tout simplement.
Donc pour permettre à tous les professionnels du secteur de se réunir une fois par an.
Tout à fait. Et en même temps, ça permet d'être sur un salon professionnel par rapport au matériel qui évolue régulièrement. Et puis en même temps, de se retrouver entre copains des quatre coins de la France.
C'est ça. Alors quel bilan vous tirez de cette 26e édition donc, qui avait lieu la semaine dernière à Bordeaux?
Bah, le bilan est toujours très très positif. On a quand même 26 ans d'expérience dans l'organisation des salons. On essaie d'innover chaque année et chaque année on a autant de succès et on a autant de plaisir à réorganiser l'année d'après. Il y a des gens dans les tuyaux, donc voilà, c'est attendu comme la grand-messe. On attend la grand-messe annuelle, si vous voulez.
Alors, qu'est-ce que vous retiendrez de cette année 2024, de cette édition?
Bah, cette édition de 2024 a projeté dans l'avenir le camion électrique.
Ah oui, dont il y a gros sujet.
Voilà, c'est un grand sujet tout à fait. C'est la première année où il y avait donc une innovation par rapport à ça. C'est d'ailleurs des gens qui ont remporté notre prix de l'innovation. Un camion de dépannage électrique pour les fameuses ZFE où le véhicule standard ou le poids lourd standard n'est plus accessible par rapport à des réglementations écologiques, tout simplement, quoi.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, on en parlera avec nos invités en deuxième heure. Vous restez avec moi, Serge Hilton-Fink, 21h15, l'infotrafic. Vous restez là, je vous retrouve tout à l'heure. Il est temps donc de reparler de vos conditions de circulation. Je suis toujours en compagnie de Serge Hilton-Fink, notre premier invité, président de l'ADAF, l'Association des dépanneurs automobiles de France. Vous avez évoqué juste avant l'infotrafic de 21h15 les enjeux pour l'avenir dans le secteur du dépannage, notamment l'électrique. On nous annonce pour demain les premiers camions électriques. Est-ce qu'on sera au point justement pour le dépannage ou est-ce que vous avez des craintes ?
Pour l'instant, je dirais que je suis réservé par rapport à ce domaine-là dans le poids lourd.
D'accord.
Du fait que voilà, c'est tout récent. Comme je disais tout à l'heure, le premier camion poids lourd dépanneuse a été livré la semaine dernière à son futur propriétaire. Toujours est-il qu'il y a d'autres camions de messagerie qui sont déjà en route, je dirais plutôt à l'étude, pour voir de quelle manière ça va se développer. Ça risque d'être quand même compliqué au niveau de l'autonomie, par exemple, ça risque d'être compliqué quand même, quoi.
Et vous me disiez aussi, lorsqu'on a préparé l'émission, qu'il y avait une formation obligatoire pour pouvoir dépanner des véhicules électriques, c'est la B2XL, si je ne me trompe pas. Vous disiez tout qu'elle n'était pas forcément suffisante, cette formation. Pourquoi ?
Pour moi, j'estime qu'elle est trop superficielle. Et je veux dire, chaque type de véhicule et chaque marque de véhicule a sa propre protection, ce qu'on appelle le plug-in pour mettre le véhicule en consignation. D'accord. Lors d'un sinistre. Et je veux dire, il n'y a pas d'uniformisation par rapport à ça. Donc les formations aujourd'hui ne peuvent pas englober tous les détails de tous les véhicules. Donc du coup, ça risque d'être compliqué. Même les sapeurs-pompiers qui interviennent, souvent, pour eux aussi, c'est tout aussi compliqué que pour nous, dépanneurs, en fait, si vous voulez.
Oui, parce que les pompiers, parfois, sont un peu déstabilisés.
Tout à fait. Bah, déjà, il y a l'effet de secours aux personnes, il faut aller vite. C'est les premiers, normalement, sur le lieu de l'accident. Donc, il y a plein de considérations qui font qu'il y a une problématique encore par ça. Et on est encore relativement novice dans ce domaine-là. Sachant qu'aujourd'hui, le véhicule électrique représente environ 2% de part de marché. Ce qui veut dire que 2 voitures sur 10 sont électriques. Voilà, c'est juste encore assez faible. Et puis, on n'a pas assez de recul par rapport à cette expérience électrique.
Il y a aussi un enjeu sécuritaire, j'imagine, pour les intervenants sur autoroute, dont les dépanneurs font partie. Comment mieux améliorer la sécurité ? Ça, c'est une de vos problématiques, j'imagine, permanentes.
Oui, effectivement, il y a trop de fourgons encore de Vinci Autoroute et des autres intervenants sur autoroute qui sont percutés régulièrement par faute d'hydratation, par faute de somnolence, par faute de, bah, je dirais peut-être même de allez, je vais lâcher le mot, d'alcoolémie au volant.
Oui.
Malheureusement, ça existe. Il y a des systèmes qui sont en cours. On parle du corridor de sécurité, mais bon, voilà. Vinci nous a présenté présenté justement au salon la semaine dernière un équipement qui permet de, d'avertir avec un haut-parleur à 110 décibels quand un véhicule rentre dans une zone protégée par un radar. Donc là, je pense qu'on a de l'avenir par rapport à ça. Voilà.
Tout à fait, tout à fait.
Mieux les intervenants. Ouais. Alors les intervenants, les personnes en panne, y compris également tout ce qui est sapeurs-pompiers qui interviennent en cas de sinistre.
Et vous me disiez que vous aviez un problème de recrutement dans le secteur. Le métier de dépanneur attire moins qu'avant. Est-ce que l'aspect sécuritaire, justement, peut faire peur un petit peu, je me demandais.
Je pense que l'aspect sécuritaire fait partie d'une des problématiques. La plus grande problématique, c'est la disponibilité H24, 7 sur 7.
Ah oui.
Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. On voit bien dans les domaines style restauration, avec des horaires un peu compliqués, effectivement, on a des gros soucis de recrutement, malgré la rémunération qui est en fonction. Aujourd'hui, la rémunération n'est plus le leitmotiv, et c'est plus ce qui motive le plus les gens. Ça devient très très compliqué, effectivement. Ça devient très très compliqué.
Alors, il y a par exemple Pierre qui nous écrit, pour la première fois d'ailleurs, qui nous dit pour le sujet du jour, oui, ça pourrait m'intéresser de devenir à l'avenir dépanneur poids lourd, mais également en voiture, dans l'idée de pouvoir toucher un peu à tout et d'être polyvalent. Cela apportera un peu plus de technicité à ma vie professionnelle. Bonjour à toute l'équipe du 177 et à tous les chauffeurs des transports Agno. Pensée particulière à Richard, Jonathan, Pascal, Andy, Michael et bonne roulade à tous. Signé Petit Pierre 49, hashtag respectons les routiers. Oui, c'est vrai qu'il faut être assez polyvalent pour être dépanneur. Il faut savoir un petit peu tout faire, j'ai l'impression.
Alors, je vais imaginer un peu la fonction du dépanneur. Je dirais que ça va être un couteau suisse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il réagisse sur toutes sortes d'interventions, aussi bien VL que PL, tout dépend de son secteur d'activité, mais en même temps, il faut aussi qu'il soit un peu, psychologue pour intervenir et puis pour calmer les gens, pour les rassurer, pour les mettre en sécurité. Il y a un côté social, c'est vrai que c'est un métier hyper passionnant, quoi.
C'est très varié.
C'est très varié et puis on touche toutes sortes de personnes, donc le dépanneur doit savoir s'adapter.
Oui, parce que souvent, c'est vrai que les dépanneurs sont les premiers, quand le patrouilleur n'a pas encore eu le temps d'arriver sur place, sur autoroute, les dépanneurs sont parfois les premiers à arriver auprès des conducteurs qui sont en panne, et donc effectivement, il y a cet aspect humain pour les calmer un petit peu.
Voilà. Oui, il y a le côté des
traits,
les gens sont en panique, donc c'est effectivement le dépanneur qui arrive en premier et qui essaye de calmer le jeu, de rassurer surtout les gens et de les mettre en sécurité également, bien sûr, bien évidemment. Quoi.
Et alors, si nos amis auditeurs chauffeurs routiers veulent se reconvertir, comment ils peuvent faire ?
Écoutez, tout simplement, ils peuvent nous contacter au sein du secrétariat de notre association de l'ADAF et on saura les diriger vers les endroits qui permettent justement de se reconvertir sans aucun souci. Sans aucun souci.
Eh bien, d'accord.
Avec grand plaisir.
Le message est passé. Merci beaucoup, Serge Hilton Fink. Est-ce que vous voulez peut-être dire un dernier mot ? N'hésitez pas.
Je dirais que porte ouverte à toute personne, toute personne souhaitant diversifier sa vie de tous les jours. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le métier de dépanneur est vraiment très, très, très vaste. Et c'est vraiment, ça devient une passion, ou ça l'est peut-être même déjà au départ. Donc, avec grand plaisir, on accueillera qui voudra bien se lancer dans ce métier-là.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Serge Hilton Fink, d'avoir brossé le tableau du secteur du dépannage en France. Très belle soirée à vous.
Merci, merci à vous également.
Au revoir.
Au revoir.
Et ce soir, on fait donc un zoom sur le secteur du dépannage à l'occasion du Salon international du dépannage et du remorquage qui a eu lieu la semaine dernière à Bordeaux, avec notre premier invité Serge Hilton Fink, président de l'Association des dépanneurs automobiles de France qui organise le salon. On a évoqué tout à l'heure les enjeux pour le secteur dans les prochaines années, notamment en matière de sécurité. Et c'est la sécurité qui va aussi nous intéresser avec notre deuxième invité. N'hésitez pas à réagir à notre thématique de ce soir et à notre sondage. J'ai déjà reçu quelques messages. Continuez à m'écrire et puis aller voter donc pour notre sondage. Aimeriez-vous être dépanneur poids lourd? On va maintenant recevoir notre deuxième invité. Il s'appelle Maxence Rière. Il est le gérant de la société Grand Éclat, le spécialiste français de la visibilité des piétons. On le retrouve tout de suite.
L'invité des routiers.
Bonsoir Maxence Rière.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter votre société Grand Éclat?
Oui, bonsoir, merci à vous. Mais écoutez, Grand Éclat, on a la chance et le plaisir d'être distributeur d'une innovation américaine. On est les spécialistes français de cette solution.
D'accord.
Et en fait, pour schématiser, si vous voulez, l'équivalent d'une carte de visite en taille, qui est lumineuse et qui permet en fait de rendre visibles les intervenants justement lorsqu'ils sont en danger.
Mais alors, avant d'évoquer cette innovation pour laquelle vous avez reçu un trophée la semaine dernière, le trophée coup de cœur de l'innovation, peut-être avant, vous, avec votre société, votre spécialité, c'est la sécurité des piétons, si je ne me trompe pas.
Oui. Alors, on est spécialiste en sécurité lumineuse autonome.
D'accord.
Et notre mission, c'est vraiment de sécuriser les intervenants, donc notamment les dépanneurs et les patrouilleurs, pour les rendre visibles en intervention dès lors qu'il y a un risque de collision ou de heurts. Donc ça peut être avec des véhicules ou des engins. On est aussi présent dans différents secteurs, tels que l'industrie, les travaux publics, les forces de l'ordre ou les premiers secours. Mais on est exclusivement aussi très précis et compétent justement sur le secteur routier et autoroutier, où il y a un risque énorme justement pour les dépanneurs.
Il y a vraiment une problématique sécuritaire. Et donc, effectivement, votre innovation que vous distribuez en France, c'est ça, c'est une sorte de balise lumineuse qui a été créée par une société américaine que vous distribuez en France depuis 3 ans. Est-ce que vous pouvez donc revenir sur ce que c'est exactement, la taille, où elle est placée, à quoi elle sert cette balise lumineuse?
Effectivement, oui, donc c'est une innovation américaine et donc nous on est distributeur national de cette marque-là. Donc ça fait un petit peu plus de 3 ans et donc cette solution, elle est très compacte, elle est ultra visible. Donc ce que j'essayais de vous exprimer tout à l'heure, c'est justement qu'elle fait une taille qui est vraiment réduite. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la taille d'une carte de crédit sur 2 cm d'épaisseur.
Et oui, c'est tout petit.
En fait, à l'épaule. Et elle se place à l'épaule et donc elle est lumineuse sur toutes les faces, et ce qui vous rend justement visible à longue distance quand vous êtes en intervention.
Oui, combien visible à combien de distance pour qu'on se rende compte?
Alors à plusieurs kilomètres de distance, on peut aller jusqu'à 4 ou 5 kilomètres dans les cas les plus favorables, mais c'est rarement le cas puisqu'il y a toujours des sources lumineuses autres. Donc à minima 1 à 2 kilomètres déjà de visibilité à distance, qui permettent en fait justement aux usagers de la route d'anticiper et de repérer les intervenants quand ils sont en phase d'action.
Oui, c'est énorme. Parce que du coup, c'est possible d'éclairer devant soi et derrière soi, c'est ça?
Exactement.
Pour être visible en fait, derrière.
Oui, tout à fait. On peut piloter la face avant ou arrière.
D'accord.
Ou bien les deux en simultané, c'est-à-dire que si on a besoin d'avoir une source lumineuse, typiquement un patrouilleur ou un dépanneur qui arrive sur une intervention, qui a besoin d'éclairer sa zone et qui peut parfois tourner le dos au danger, va être visible à l'arrière puisqu'il aura un flash à l'arrière et de l'éclairage fixe à l'avant.
C'est génial. Et donc ça permet aussi aux dépanneurs, aux patrouilleurs d'avoir les mains libres pour faire ce qu'ils ont à faire tout en étant éclairés.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour ce qui va être de remplir des papiers, des documents, rassurer quelqu'un. Tout à l'heure, Serge nous parlait justement des dépanneurs qui sont souvent les premiers sur les lieux d'intervention. Mmh. Ça permet aussi de discuter plus sereinement avec les gens parce qu'on n'a pas une lampe frontale en fait qui vient perturber le regard puisque le faisceau est à l'épaule. Et donc ça vient se placer à l'épaule simplement sous le tissu. Vous avez une plaque aimantée qui vient se mettre sous le tissu et vous passez juste votre balise par-dessus qui va prendre en fait en sandwich le tissu et vous êtes équipé en 2 à 3 secondes.
Et donc c'est le dépanneur, l'utilisateur, le dépanneur patrouilleur qui pilote lui-même l'intensité de la lumière.
Oui, vous avez plusieurs modes d'éclairage et d'intensité lumineuse. Donc selon les distances justement, donc sur autoroute, on conseille fortement de la mettre à puissance maximale puisque c'est là qu'on va gagner en visibilité. Et on le sait, ben les secondes et les millisecondes sont précieuses.
Oui. Ça coûte combien cette petite balise?
Elle coûte 108,25 € hors taxe, donc c'est un coffret complet dans lequel vous allez retrouver votre balise lumineuse, l'accessoire d'origine qui permet de le placer sous le tissu et un câble de chargement puisque ça se recharge comme un téléphone portable avec un câble USB-C.
Et donc vos clients, ce sont plutôt des entreprises que des particuliers?
Oui, on a une clientèle qui est majoritairement composée d'entreprises. Comme je vous l'expliquais, donc on a beaucoup d'intervenants en route, mais aussi dans l'industrie et les travaux publics.
Oui.
D'accord. Et on a aussi un modèle justement qui est destiné aux particuliers, qui est de plus petite taille, avec une puissance moindre. Donc il faut imaginer qu'elle fait deux fois moins de puissance pour deux fois moins d'autonomie, mais qui D'accord. permet quand même de se sécuriser pour beaucoup, beaucoup de déplacements et de courtes durées.
Et donc, aux États-Unis, ce produit, il a déjà été utilisé. Quels sont les retours de son utilisation ?
Alors, tous les retours qu'on a sont ultra positifs. D'accord. Alors, aux États-Unis, je sais que les retours le sont aussi. J'ai forcément moins de détails que sur tous oui. les retours que je peux recueillir ici en France, dans tous les secteurs, notamment sur le secteur route. Pour revenir au milieu du dépannage, là où j'ai aussi beaucoup de retours d'informations, c'est que les véhicules anticipent justement le dépanneur et oui. s'écartent. Donc c'est un très très bon complément aussi au corridor de sécurité, puisque les gens justement anticipent et comprennent qu'il y a une zone d'intervention, notamment au fait, c'est lié en fait au fait que le dépanneur est visible et en mouvement. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, puisqu'on a souvent l'habitude d'avoir une masse fixe, c'est-à-dire un véhicule qui lui est éclairé, balisé, mais peu le personnel finalement.
Ouais, c'est intéressant. Peut-être pour finir, Maxence Rière, ça a déjà été expérimenté sur des autoroutes, sur le réseau dans l'Ouest, le Centre. Dans quel district exactement ?
Oui, il y a eu plusieurs districts qui ont testé le dispositif. Donc on a 5 directions régionales qui ont testé le dispositif.
D'accord.
Les premiers tours qu'on a eus sont très positifs. Et je m'étais moi-même déplacé justement à Toulouse pour pouvoir constater, partant de pluie, donc des conditions météorologiques très très défavorables pour la visibilité. Ah oui. Et on a pu constater justement la différence par rapport en fait aux tenues rétro-réfléchissantes dont les patrouilleurs et les dépanneurs sont dotés. Cependant, le problème de ces tenues rétro-réfléchissantes, c'est que, comme leur nom l'indique, il faut qu'il y ait une source lumineuse déjà sur elles oui. pour qu'elles réfléchissent la lumière. Donc, il y a beaucoup de conditions et de paramètres qui font qu'on perd en visibilité. L'idée, nous, c'est d'apporter justement une visibilité constante et à très très longue distance.
Eh ben, merci beaucoup, Maxence Rière, pour toutes ces précisions. C'est vraiment prometteur. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, peut-être une dédicace ? Je sais que c'est votre premier passage à la radio, donc n'hésitez pas. C'est le moment.
Je vous remercie. Je souhaiterais remercier tous nos clients qui nous font confiance pour leur sécurité depuis déjà de nombreux mois et de nombreuses années. On a équipé beaucoup de personnes et on est ravis de les savoir en meilleure sécurité grâce à nos équipements. Remercier également nos partenaires ainsi que mes amis et toute ma famille.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, merci Maxence beaucoup. Rière. Très belle soirée. Oui. Au revoir.
Également, merci.
Et vous êtes toujours dans votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ce soir, on parle de dépannage. Vous l'avez compris. N'hésitez pas à voter aussi pour notre sondage du soir. Aimeriez-vous être dépanneur de poids lourd ? Et dans les messages que je reçois, il y a quand même des auditeurs intéressés pour devenir dépanneur de poids lourd. Donc pour voter, vous allez sur notre page internet radio177.fr. Lorsque vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur le bandeau sondage du soir. Je donnerai le résultat aux alentours de 22h50. Et avant de reprendre le fil de notre émission, on va faire un petit détour par la Sarthe pour faire un bilan des 24 heures camion Le Mans, en compagnie d'un invité que vous connaissez bien, Kevin Bassanelli de la team CCV, dont nous sommes partenaires. Bonsoir Kevin.
Bonsoir à tous.
Voilà, Kevin Bassanelli de la team CCV que vous connaissez bien. Alors comment ça s'est déroulé la course pour vous ce week-end ? Est-ce que vous êtes satisfait ?
Mais oui, très satisfait même. Pour l'ensemble du team, c'était la mise en route de notre nouveau camion, avec un petit peu de retard. On devait l'avoir pour le Castellet en mai dernier. Et après, on a pris le choix de le lancer au Mans. Et au final, ça a été une réussite parce qu'on n'a pas été trop embêté, on n'a pas eu trop d'avaries et on a pu terminer les 4 courses du week-end. Donc c'est un très bon objectif déjà.
Bah, génial. Et c'était finalement la première fois que vous rouliez de nuit ?
Et oui, également, de belles sensations, une expérience vraiment géniale. C'est vrai que le départ était un petit peu chaud, ça fait bizarre de se retrouver à 30 camions comme ça en pleine nuit. Ouais. Le départ est lancé et que voilà, au fur et à mesure des tours, ça allait de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'est une sensation vraiment différente et je pense que ceux qui font des vrais 24 heures doivent vraiment s'éclater.
Ouais. Est-ce que c'est plus compliqué de rouler de nuit ?
Au bout de quelques tours, c'est vrai qu'on prend vite des nouveaux repères. Bon, après, la piste était quand même éclairée par les projecteurs. Nous, sur les camions, on a aussi des petits feux. Donc, c'est vrai que l'un dans l'autre, non, ça va, c'était gérable.
Oui, ça se fait quand même. Et au niveau du classement, ça va, vous êtes content ?
Oui, j'ai pu un petit peu regrappier des places suite à mon week-end à Manicourt, ça s'était pas très bien passé. Donc voilà, ah oui, on se remet dans la course, voilà, sur la deuxième partie de classement, malheureusement. Mais c'est pas grave, voilà, on commence déjà à préparer Albi dans un mois. Donc la dernière manche de la saison. Et après, voilà, avec le lancement du nouveau camion, on est déjà sur 2025.
Oui, parce que oui, c'est ça, la prochaine étape, c'est le Grand Prix d'Albi avec la finale du championnat de France camion. C'est fin octobre. Comment vous l'envisagez, cette finale ?
Bah du coup, en plus à Albi, c'est un circuit que j'affectionne particulièrement. C'était mes premiers tours de roue, donc ouais, c'est vraiment un circuit que j'aime bien, rapide. Donc je pense qu'avec le nouveau camion, ça devrait bien matcher ensemble, et j'espère faire de beaux résultats là-bas.
Bon, bah super, bah on croise les doigts et ça va bien se passer. Et donc déjà, l'œil aussi déjà sur 2025.
Oui, tout à fait. Voilà, il faut un petit peu se redonner de nos objectifs. Et afin de préparer la prochaine saison, on va encore faire un petit peu de rodage sur le week-end d'Albi pour affiner les réglages, plus rouler un petit peu cet hiver et être d'attaque pour le Castellet en début de saison prochaine, chez nous.
Eh ben génial. Merci beaucoup, Kevin Bassanelli. On suivra ça, bien sûr, de près. Et donc, bon courage, bonne chance pour le Grand Prix d'Albi, donc week-end du 28 octobre, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, c'est bien ça.
Eh bien super, très belle soirée à vous.
Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Au revoir.
Allez, la fin de la première heure de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Continuez de m'envoyer vos messages. Il y a par exemple Taz de Nantes qui me dit « Salut les amis, et pourquoi pas devenir dépanneur ?» Les dépanneurs sont nos anges de la route, toujours à nos côtés, respect à leur métier. C'est vrai qu'on parle beaucoup des patrouilleurs, mais voilà, ce soir, honneur aux dépanneurs, à leur sécurité. On en apprend un petit peu plus sur ce métier. Merci beaucoup Taz pour votre message. Continuez de m'envoyer des messages, vous le savez, pour m'écrire, pour réagir. Est-ce que vous aimeriez être dépanneur? N'hésitez pas à me raconter un petit peu. Lorsque vous êtes à l'arrêt, vous allez sur notre site internet radio177.fr et vous cliquez sur la bulle bleue Messenger. Tout à l'heure, il y a Pierre qui m'a écrit pour la première fois, petit Pierre 49. Qui écrivait pour la première fois, donc n'hésitez pas aussi à vous lancer, voilà, vous m'envoyez un petit message et je le lirai à l'antenne. Et puis le sondage du soir aussi, voilà, est-ce que vous aimeriez être dépanneur de poids lourd? Pour voter, vous le savez, radio177.fr, sur notre page d'accueil, il y a le bandeau orange sondage du soir et vous pouvez aller voter. Allez, il est 22h.
Les routiers sont toujours aussi sympas avec Florence Dolly. Sont toujours aussi sympas.
Et le début de votre deuxième heure, je vous rappelle que ce soir, on parle du Salon international du dépannage et du remorquage, l'occasion de faire le point sur les innovations du secteur et les enjeux pour les prochaines années. En première partie d'émission, on a reçu le président de l'ADAF, l'Association des dépanneurs automobiles de France, qui organise le salon tous les ans. La 26e édition a eu lieu à Bordeaux la semaine dernière. Il nous a dressé un tableau complet de l'état de la profession. Nous avons aussi parlé de la sécurité des dépanneurs, un enjeu essentiel sur les routes et les autoroutes. Notre deuxième invité, Maxence Rière, nous a d'ailleurs présenté une des innovations qu'il distribue en France, une balise lumineuse qui permet d'éclairer patrouilleurs et dépanneurs. C'est une belle innovation à sécurité qui a obtenu le trophée coup de cœur de l'innovation la semaine dernière au salon de l'ADAF. Dans cette deuxième heure, on va se tourner vers l'avenir en abordant la question de l'électrique. Et oui, question très importante dans les prochaines années, enjeu important. On va recevoir Kevin Viau, directeur de l'entreprise Bess et Hopi, qui fabrique des équipements spécifiques remorques, plateaux et bras de levage pour les dépannages depuis les années 70. Il nous présentera la première dépanneuse électrique qu'ils ont carrossée, que son entreprise a carrossée. Hein. Tout à l'heure, le président de la DAF nous parlait de cette première dépanneuse électrique qui a été présentée au salon la semaine dernière. Et notre dernier invité s'appelle Frédéric Coll. Il travaille au sein de la société Stavi Aquitaine qui va donc utiliser en Aquitaine cette première dépanneuse électrique. Voilà, vous avez le programme. Bonsoir Kevin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Kevin Viau, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise Bess et Hopi que vous avez reprise il y a peu de temps, il me semble.
Oui, tout à fait. Bonsoir, merci. merci de m'apprêter cette attention. Bonsoir, donc je suis Kevin Viau, j'ai repris l'entreprise BSEOP Technology pour la faire repartir, et ce depuis juin 2023.
D'accord.
Donc environ un an et demi.
Parce que l'entreprise était en difficulté, il y avait eu aussi un orage de grêle en 2022, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. En juin 2022, il y a eu un orage de grêle qui a mis à mal, qui a mis à terre l'usine de production. Et depuis, pendant un an, l'ancienne structure a coulé. Et depuis juin 2023, nous faisons repartir cette entreprise, et nous sommes très fiers d'affirmer le savoir-faire conservé par les anciens employés que j'ai pu conserver et qui font aujourd'hui qui reproduisent également les panneuses. Nous transformons des camions, des châssis de camions, pour les transformer en dépanneuses et porte-engins.
Oui, alors racontez-nous, donc vous êtes carrossier, équipementier, donc quelle est votre spécialité ? Ce sont les dépanneuses.
Tout à fait. Nous transformons donc les châssis pour les équiper de structures en acier. Notre spécialité reste la chaudronnerie et la carrosserie.
D'accord.
Et nous équipons les camions de plateaux en acier, reconnus pour leur fiabilité et leur performance.
Et donc, vous adaptez aussi des véhicules pour les interventions spécifiques sur autoroute, par exemple, parce qu'on imagine qu'il y a des éléments de sécurité à prendre en compte.
Tout à fait. Donc nos principaux clients sont finalement des dépanneurs qui opèrent sur le trafic autoroutier et qui se retrouvent souvent en intervention, souvent en opération au milieu de l'accident, au milieu des pompiers et des forces de l'ordre pour pouvoir réguler le trafic. Et il est important que la dépanneuse, au-delà d'être un véhicule, puisse également être un élément de sécurité pour le dépanneur, pour qu'il puisse réaliser l'intervention dans toute la sécurité possible.
Donc par exemple, manipuler des éléments depuis plutôt le côté de la dépanneuse qui sera pas du côté de la circulation, côté plutôt passager, c'est ça, il y a des manettes aussi qui sont adaptées.
Donc effectivement, c'est quelque chose qui est relativement connu chez nos clients, où effectivement, pour pouvoir préserver l'intégrité physique et le confort d'utilisation, les dépanneurs, nous invitons les dépanneurs, lorsqu'ils sont en intervention, à venir se mettre du côté de la bande d'arrêt d'urgence, du côté de la lisse, pour pouvoir manœuvrer le plateau et les différents équipements de la manière la plus sécurisée possible. Ils ont également, nos équipements sont également pilotés via des télécommandes, ce qui leur permet d'intervenir parfois même directement depuis leur cabine.
Oui. Alors vous avez été une des sensations, on peut le dire, hein, du Salon international du dépannage la semaine dernière à Bordeaux, puisque donc vous étiez présent pour parler d'une innovation. Vous avez carrossé la première dépanneuse électrique.
Effectivement, nous avons eu la chance de...
La première en France.
La première en France, oui, c'est une première française. Je pense que d'autres sont en train de... actuellement d'en carrosser, mais nous avons eu la chance de travailler sur un véhicule 100% électrique, et nous sommes très fiers d'être le premier à avoir sorti cette première dépanneuse que nous avons présentée sur le Salon de Bordeaux, effectivement, où nos visiteurs ont pu constater toute la qualité et le savoir-faire retrouvé de BSEOP.
Alors, c'est quoi la différence concrètement, esthétiquement ? Est-ce qu'il y a une différence avec une dépanneuse thermique ? Vous me parliez des batteries un petit peu plus visibles, si je ne me trompe pas.
Effectivement, au-delà de la cabine qui ressemble qui ressemble à un véhicule thermique. Ce que l'on peut distinguer, c'est effectivement les coffres à batterie qui se trouvent de part et d'autre et plutôt entre les deux essieux au niveau du châssis. Les pattes de batterie qui sont souvent visibles. Et au-delà du fait que les batteries sont visiblement carénées, nous les intégrons à notre propre carénage, à notre carrosserie, pour qu'elles puissent d'une part s'intégrer le mieux possible et conserver une ligne d'une part esthétique avec un carrossage adéquat. Et en même temps, on retrouve les éléments de sécurité où nos carénages de flanc sont également des éléments qui permettent de protéger l'intégrité du camion.
Est-ce que avec des batteries, un camion est plus lourd ? La dépanneuse est plus lourde du coup qu'une dépanneuse thermique ?
Alors c'est le constat que nous pouvons faire. Je ne suis pas constructeur de camions et ça dépendra effectivement des choix de nos clients. Mais effectivement, on constate que pour l'instant, les batteries représentent une masse ajoutée qui est relativement conséquente. Et ce que l'on a pu constater, c'est qu'effectivement, sur notre dépanneuse, qui était effectivement, le châssis était un Renault E-Tech D16, donc un 16 tonnes de poids total. À l'issue, quand bien même nous ayons rajouté un équipement, j'ai envie de dire, de masse maîtrisée et habituelle, à l'issue, on constate que l'on ne peut embarquer qu'une charge utile que de 4,5 tonnes.
Ah oui, c'est ça. Donc, camion assez lourd et pas beaucoup de chargement possible à transporter à l'arrière.
C'est ça. Ou du moins, il faut sûrement augmenter aujourd'hui le porteur pour pouvoir garantir une charge suffisante dans l'opération que l'on a à faire.
Est-ce que pour manipuler les batteries, pour vous, pour carrosser cette dépanneuse électrique, il y a plus de précautions à prendre ? Parce qu'on imagine qu'il y a des risques un peu d'incendie aussi avec une batterie à manipuler.
Alors, il y a effectivement beaucoup d'idées reçues ou d'évolutions, on va dire, désormais qui ont eu lieu. Les batteries sont beaucoup plus sécurisées. Je pense pas. Je pense que désormais il n'y a aucun, je veux dire, risque à proprement parler. Néanmoins, d'une part, pour sécuriser nos fabrications, pour sécuriser nos compagnons qui carrossent et qui équipent les camions. Également pour garantir à nos clients que les batteries conservent leur intégrité, leur durée de vie pendant que nous carrossons leur véhicule. Oui. Effectivement, nous demandons aux constructeurs, et notamment là en l'occurrence à Renault, de venir intervenir pour désarmer les batteries le temps que nous carrossons pour pouvoir garantir ce véhicule inerte pendant cette phase.
D'accord, donc ça a un petit peu modifié quand même votre façon de travailler.
Ça ajoute effectivement des étapes dans le projet, des intervenants au projet que nous n'avions effectivement pas l'habitude d'avoir. Après, tout est une question d'organisation et nous avons su effectivement intégrer cela dans le temps court qui nous était imparti.
Et bah, bravo et merci beaucoup Kevin Vio pour toutes ces explications. On va recevoir tout à l'heure un de vos clients, hein, la société Stavi Aquitaine, qui nous expliquera comment ils utilisent cette dépanneuse électrique. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot peut-être avant qu'on se quitte ?
Je vous remercie pour votre attention et nous restons à votre disposition pour carrosser tous vos projets.
Ben voilà, le message est passé. Donc Kevin Vio, dirigeant de l'entreprise Bess et Hopi, merci beaucoup. Très belle soirée à vous.
Bonne soirée. Merci.
Au revoir. Allez, 22h30, pile à l'heure. Petit clin d'œil à Sébastien Ponchelet. On va faire le point tout de suite sur le trafic. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que d'abord vous pouvez nous présenter Stavi Aquitaine ? C'est une filiale, c'est ça, du groupe GT Solutions ?
Oui, c'est ça. Nous sommes une filiale de GT Solutions. GT Solutions, c'est une entreprise qui vend des véhicules industriels avec des conducteurs. Et nous sommes leur filiale. À l'origine, nous étions le garage intégré, c'est-à-dire que nous réparions et entretenions tous les véhicules du groupe GT.
Je vous coupe, je vous entends pas très très bien. Le son est un petit peu étouffé.
Est-ce que vous m'entendez?
Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux.
Parfait, j'ai changé d'oreille.
ça marche bien.
Donc, je reprends. Sally Aquitaine est une filiale du groupe GT Solutions, une entreprise qui loue des véhicules poids lourds avec conducteurs essentiellement. Et depuis 1991, nous étions l'atelier intégré, c'est-à-dire que nous réparions et entretenions tous les véhicules.
D'accord.
Et petit à petit, nous sommes filialisés, nous sommes ouverts donc au public avec deux activités principales qui sont toujours la maintenance et l'entretien des véhicules poids lourds, mais aussi le dépannage et remorquage sur autoroute, secteur concédé et hors secteur.
Alors,
à la fois du poids lourd et des véhicules légers.
D'accord. Vous êtes vous êtes les premiers à opter pour une dépanneuse électrique, si je me trompe pas. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous êtes vous passez progressivement à l'électrique?
Mais depuis les accords de Paris sur le climat, où en fait à l'horizon 2050 nous devrions avoir 0% d'émissions de CO2, nous nous sommes posé des questions: qu'est-ce que nous pourrions faire nous pour la planète? Donc nous avons essayé nous avions plusieurs choix, c'est-à-dire de continuer à rouler au diesel, ce qui ne changeait rien, partir sur des carburants verts, ce que nous avons essayé avec du carburant à base de colza, opter pour du GNV, mais pour nos activités d'épanage, nous avions trouvé que ce n'était pas forcément l'outil idéal, et pourquoi pas l'électrique, puisque aujourd'hui on arrive sur des matériels et des technologies qui sont relativement très fiables. L'avantage de partir sur l'électrique, en fait, pour nous, est un pari gagnant à 100%, puisque à la fois nous allons réduire nos émissions de CO2, donc nous travaillons pour le réchauffement de la Terre, mais aussi, surtout, nous allons supprimer tout ce qui est émissions de particules. La fois les particules, ce qu'on appelle fines, mais aussi les oxydes d'azote, c'est qui nous font très mal à nos poumons.
Et alors, par rapport à une dépanneuse thermique, quelle est la différence? Vous l'avez conduite, cette dépanneuse électrique?
Oui, bien sûr. Bon, la différence, déjà, c'est le poids. Comme nous le disait Kevin, vous le partagez avec Kevin, c'est vrai que nous avons un véhicule qui est plus lourd.
D'accord.
C'est-à-dire qu'habituellement, pour faire du remorquage, pour assurer le remorquage des véhicules légers, nous utilisons un véhicule de 12 tonnes. Là, par le poids des batteries, nous avons choisi un châssis 16 tonnes, mais qui, au final, nous donne quand même de la charge utile suffisante pour assurer tous les remorquages.
D'accord.
Donc, il est vrai que le véhicule est un peu plus lourd, mais de fait, par la puissance dégagée du moteur qui est constante, en fait, on se rend pas compte du poids du véhicule.
D'accord. Donc, ça change pas grand-chose pour vous, finalement?
Non, ça change pas grand-chose, voire même... Ce qui est étonnant, c'est que c'est beaucoup plus confortable. En fait, en termes de bruit dans la cabine, on n'entend plus du tout le moteur et que le roulage, en fait. Mais surtout, comme on a une puissance qui est continue, on ne ressent plus les à-coups d'un véhicule standard. C'est-à-dire que lorsqu'on lâche la pédale, par la régénération, les à-coups sont gommés et du coup, dans la cabine, on est moins secoué. C'est hyper confortable.
Oui, donc c'est quand même plus agréable. Et au niveau de la recharge, est-ce que ça a changé votre tournée? Est-ce qu'il faut que vous vous arrêtiez plus longtemps pour recharger ou ça n'a rien changé?
Si, ça a changé quand même. En fait, il faut regarder les choses. Nous avons été obligés de regarder les choses différemment.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des hyperchargeurs à disposition. Et pour parler technique, mais vraiment très très simple, nous avons deux types de recharge, soit en courant alternatif, soit en courant continu. Alors les hyperchargeurs, où on pourrait charger en 1h30, ce sont des chargeurs en courant continu, mais ils sont rares. Même nous, à l'entreprise, nous n'en avons pas.
Oui.
Nous avons des chargeurs traditionnels qui sont en courant alternatif. Ce sont les mêmes chargeurs que nous utilisons pour les voitures. Bien sûr, un petit peu plus puissant, ce qui nous donne des temps de charge de 4h30, 5h.
Oui.
Donc c'est là où il faut repenser les choses. Il faut penser à recharger, par exemple, pendant les coupures. Ça peut être la coupure du midi, ça peut être la coupure du soir. C'est là où, en fait, on va chercher des recharges en temps masqué. Et c'est là où je dis qu'il faut juste penser différemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le plein quand on est à vide, on anticipe. Il faut
sans
arrêt anticiper, mais qui est en fait une petite anticipation, puisque la recharge est relativement rapide, puisque un repas, une coupure peut être 1h30, 2h, et dans ce cas-là, on a chargé pratiquement 60% de la capacité du véhicule.
Est-ce que vous aviez des craintes, des appréhensions? Est-ce que vous en avez encore, ou finalement non?
Les craintes étaient l'autonomie. Est-ce qu'on va avoir d'énergie pour pouvoir assurer la journée ou les 24 heures d'astreinte?
Ouais.
Oui. En fait, cette crainte, elle a sauté dès le premier jour, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'en temps réel, nous avons une autonomie de 320 km. Et sachant que nos plus gros journées, c'était 180 km, puisque nous faisons des allers-retours, autoroute, dépôt, dépôt, autoroute.
Oui.
Donc, du coup, cette crainte est partie. Après, on avait une deuxième crainte, on se disait, bah, attendez, si on est bloqué sur l'autoroute parce qu'il y a un accident ou un multi-accident, il faut patienter, le véhicule va se décharger. À l'arrivée, on va tomber en panne sur l'autoroute. Enfin bref, il va falloir appeler des collègues pour venir me dépanner. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur, et bien le véhicule se coupe. Il n'a plus de consommateur. Il y a juste un consommateur très faible pour tenir le véhicule en fonctionnement. Et c'est là où en fait, on pense complètement. Enfin, l'utilisation du véhicule est complètement différente.
D'accord, oui, donc vous avez changé un petit peu vos habitudes, mais finalement, ça se passe bien.
Pas tant que ça.
C'est pas tant que ça, oui.
Mais qui fait que... qui nous fait voir les choses différemment.
Et alors, du coup, pour la suite, est-ce que vous envisagez d'augmenter votre flotte de dépanneuses électriques?
Ah oui, mais nous attendons une autre dépanneuse électrique, là, sur un châssis 19 tonnes, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus puissant et avec une charge utile beaucoup plus lourde, justement, pour pouvoir aller chercher et remorquer des véhicules plus lourds et pour dépasser le stade du véhicule léger, pour aller sur du véhicule industriel relativement conséquent. Ce véhicule, nous devrions le recevoir début décembre et le mettre en circulation, j'espère, et bien, juste avant la nouvelle année.
Ah oui, d'accord, donc ça avance bien, quoi.
Oui, ça avance bien.
Et ben merci beaucoup, Frédéric Coll, d'avoir pris du temps ce soir pour nous raconter tout ça. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, peut-être, une dédicace, n'hésitez pas.
Ben écoutez, d'abord, je vous remercie, et puis surtout... Un grand salut à tous les dépanneurs, et puis les dépanneurs sont sympas aussi.
Ah bah ça c'est sûr, les dépanneurs sont sympas. Merci beaucoup Frédéric Coll, et très belle soirée à vous.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Et donc les dernières minutes pour voter aussi pour notre sondage du soir, n'hésitez pas à aller voter. Alors il y a quand même un des deux termes oui ou non qui l'emporte nettement, mais voilà, je vous rappelle que vous pouvez voter pour notre sondage du soir. Aimeriez-vous être dépanneur poids lourd? Et je reçois quelques nouveaux messages là d'auditeurs plutôt intéressés, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voter. Dernière minute, vous cliquez sur le bandeau orange sur notre page internet radio177.fr. Aimeriez-vous être dépanneur poids lourd? Oui, non. Je dévoilerai le résultat juste après l'infotrafic qui arrive tout de suite. C'est le moment de dévoiler le résultat du sondage de ce soir. Ce soir, on a parlé du secteur du dépannage et du remorquage. Et du coup, on vous a posé la question, aimeriez-vous devenir dépanneur poids lourd? Eh bien, vous êtes 69% à avoir répondu que non, vous n'aimeriez pas être dépanneur poids lourd. Et seulement 30% à avoir répondu que oui. Donc voilà, c'est plutôt le nom qui l'emporte, mais il y a eu pas mal de curiosité dans les messages. Il y a d'ailleurs Julien, notre routier canadien, québécois, qui nous écrit, qui me dit « J'aimerais bien être opérateur de dépanneuse lourde, surtout au Canada, pour affronter les conditions hivernales. » Oui, ça doit être encore une autre façon de travailler. Ça doit être un réel défi à Toronto, en direction de Springfield, avec 27 degrés. Bonne soirée à tous. Merci.
Bonjour à Omer.
Pour le reportage. Bonjour à Omer, Lisa.
Bah oui, Springfield.
Ah oui, Omer
Simpson. Oui, petite référence Simpson.
Ah oui, pardon, j'avais pas du tout, mais d'accord. Donc,
c'est une belle odyssée de parler d'Homère, voilà.
Oh là là.
Pas mal.
Et en plus, c'est lettré, tout ça, on place un peu tout, merveilleux. Il y a aussi Seb qui nous écrit, Seb qui est patrouilleur, qui me dit « Seb se repose après Le Mans, merci à lui pour l'échange qu'on a pu avoir ce week-end au Mans. » Oui, vous étiez nombreux à visiter les 24 heures camion Le Mans ce week-end, à rencontrer Sébastien. Seb qui nous dit « Bon courage à vous 3. Du coup, vous êtes mes copilotes ce soir, car je patrouille sur l'A10 cette nuit. Au passage, si mon camion se trouve arrêté, merci de vous décaler. Ça fait toujours du bien de le rappeler. Le corridor de sécurité, on en a parlé aussi ce soir, hein, avec ce point sur les dépanneurs. Hein. Le corridor de sécurité à respecter, ça fait toujours du bien de le rappeler lorsque vous voyez des patrouilleurs, des dépanneurs, des véhicules, des forces de l'ordre en intervention sur bande d'arrêt d'urgence ou sur les voies. Et vous devez à chaque fois laisser une voie de libre entre votre véhicule et les intervenants. Voilà, vous ralentissez, vous vous décalez, s'il vous plaît. Vous respectez ce corridor de sécurité pour leur sécurité. Allez, un petit peu de musique pour terminer tranquillement cette émission. Continuez à m'envoyer vos messages. On va écouter Jack Soul, Think You Should Know. C'est déjà la fin de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas, consacrés au secteur du dépannage. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci pour vos messages. Le message de Petit Pierre 49, Tasse de Nantes, Sylvain, Seb, Julien. Merci à nos 5 invités qui nous ont fait découvrir donc ce secteur. Merci également à Marie-Dominique Berthaud et Perrine Martin de m'avoir aidé à préparer l'émission. Merci à Sébastien Ponchelet qui m'a donné ses instructions avant de partir. Vous retrouverez votre Sebamax dès mercredi. Demain soir, première émission playlist de la semaine, mais attention, playlist à thème, soirée disco. C'est vous qui ferez la programmation musicale, mais toutes les chansons que vous choisissez devront être sorties entre 1970 et 1979. Alors, c'est pas trop notre décennie, Lisa, Quentin, on n'était pas nés, mais voilà, je suis sûre que vous aurez plein d'idées.
Ah oui, on aura plein de belles choses à sortir. On soufflera un petit peu la poussière sur quelques belles pépites dans les tiroirs du 107.7. J'en suis sûr qu'il y a de belles choses.
Là, vous pensez qu'on entend déjà une chanson sortie dans les années 70 là ?
Alors, je ne suis pas très très précis sur les dates, ouais. Mais si vous me laissez 30 secondes, j'ai un ordinateur sous la main, on va voir si...
Le temps pour moi de parler aussi du sondage de demain soir. Vous pourrez déjà voter dans l'après-midi pour choisir la chanson qui clôturera l'émission demain. Préférez-vous Parole Parole de Dalida et Alain Delon, sorti en 1973, ou Où sont les femmes de Patrick Juvet, sorti en 1977. Lisa, Quentin, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Quentin, vous avez trouvé du coup une chanson des années 70.
Il y a tellement de choses, mais tellement de choses que je suis en train de d'apercevoir. Bon, c'est pas très disco, hein, mais Bob Marley, No Woman No Cry, par exemple.
Ah oui, c'est pas disco, mais ça marche.
Ah oui, non, là, j'ai vraiment pas beaucoup de disco qui apparaît sous mes petits yeux, là. Ouh là là, je vais vite vous trouver quelque chose de plus sympathique, quand même, parce que là, on aurait... Ah bah oui, bah Boogie Wonderland, voilà.
Voilà.
Disco Inferno, des Tramps, oui, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Ah, Give Me Love, de Marc Cerron, ça c'est quelque chose qu'on a bien entendu pendant les Jeux Olympiques.
Oui. Donc, super, Quentin, ce sera pas vous du coup demain soir ?
Hélas,
non. Il me semble, mais bon, en tout cas vous restez jusqu'à 1h aussi dans le sud-ouest du pays. Lisa, vous accompagnez encore les auditeurs dans le sud-est et la vallée du Rhône. Et
non, je serai pas là non plus demain, mais je penserai à vous.
Belle soirée à tous les deux, merci encore. Il est 23h.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi, 21h, 23h sur Radio Vinci Autoroute.